Et maintenant, les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Anaïs Hiver et Laurie Soulabaille, formatrices en FLE, français langue étrangère, à langue et communication. Pour ce nouveau projet radiophonique, avec le groupe de stagiaires que nous avons accompagné, nous avons choisi d'aborder un sujet grave et politique. La nouvelle circulaire Retailleau sur la certification linguistique. Cette circulaire durcit les critères d'obtention des titres de séjour et de naturalisation en imposant un niveau de français très exigeant aux personnes migrantes. Ainsi, pour prétendre à la nationalité française, il faut maîtriser la langue au niveau B2, soit le degré post-bac, mais aussi l'histoire de France, les valeurs culturelles, sociales et républicaines françaises. Des connaissances que bien des Français et Françaises n'ont pas. Ainsi, savez-vous de quand datent les églises gothiques? À quel personnage est associé l'Arc de Triomphe? Ou encore, en quelle année a été proclamée la République française? Et côté langue française, savez-vous comment on écrit des rideaux vert foncé? Doit-on mettre des S à vert et à foncé? Connaissez-vous le pluriel de erratum? Ou encore, écrit-on grelotté avec un seul T ou grelotté avec deux T? Est-ce que la forme, ce dont je me rappelle, est correcte? Alors, vous avez toutes les bonnes réponses, et ben moi non.
Bref, tout irait presque bien si on permettait à toutes et tous d'accéder à des cours de français et d'histoire. Or, au même moment, les cours d'apprentissage du français ont été dématérialisés pour la plupart. Les personnes allophones sont contraintes d'apprendre le français seules, devant un écran et avec l'IA. Cette circulaire aggrave donc les conditions d'accueil et de survie des personnes migrantes. Elle ajoute un fort stress à des situations déjà compliquées. Elle est en outre hypocrite, elle ne dit pas son nom. C'est une décision raciste qui vise à limiter encore plus l'immigration. Vous allez donc entendre dans cette émission Amida, Fatma, Eman, Mouktouya, Narges, Anna, Moujibour, Narek, Louane, Naïma et Jaouid, absents aujourd'hui, qui ont participé, vous raconter leur parcours, vous dire si l'école est obligatoire ou non dans leur pays d'origine, si ils et elles ont eu la chance d'y aller et d'apprendre une langue étrangère. Merci à elles et à eux d'avoir participé aux ateliers, de nous avoir confié leur parcours, leur situation difficile et leurs angoisses pour l'avenir.
Cette émission est en deux volets. Vous entendrez aujourd'hui deux chroniques chorales sur pourquoi il faut savoir parler et comprendre la langue française et pourquoi la nouvelle loi Retailleau est injuste. Vous entendrez également les histoires d'Anna, Mouktouya, Narges et Amida, ainsi que les interviews d'Élodie Véniel, Kelly et Enora, formatrices FLE, français langue étrangère.
Pourquoi avons-nous besoin de comprendre et de parler français?
C'est normal de connaître le français pour vivre en France.
Dans la vie quotidienne, j'ai besoin de bien parler pour expliquer ma situation, pour trouver de l'aide, pour exprimer mon opinion.
Pour raconter des gens, pour me faire des amis, pour les démarches administratives.
Pour gérer mon logement, pour aller chez le médecin, pour communiquer avec les parents, des amis, de mes enfants.
Pour rencontrer les gens, pour travailler, pour aller chez le coiffeur.
Moi, par exemple, j'ai essayé d'expliquer ce que je voulais. Je ne sais pas ce que la coiffeuse a fait, mais quand je suis sortie, j'ai pleuré.
Pour aller chez le dentiste. Une connaissance à moi est allée chez le dentiste. Il ne comprenait pas les questions du dentiste et il a dit oui, 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 oui. Quand le dentiste a demandé « Vous avez mal là ?» Résultat, il a perdu 3 dents.
J'ai aussi besoin de français pour faire des courses, pour me déprendre, pour faire face à une situation d'urgence.
J'ai besoin de comprendre les gens qui parlent pour m'informer, pour ma santé. À l'hôpital, j'étais soignée pour l'asthme et je ne connaissais pas le mot poumon. J'ai confondu avec le mot piment. Je voulais rentrer chez moi et je disais au médecin, j'ai arrêté de manger du piment pour pouvoir sortir de l'hôpital.
J'ai besoin de lire et d'écrire pour comprendre ma déclaration des impôts. Je me suis débrouillée toute seule pour mes démarches administratives et j'ai fait beaucoup d'erreurs car je n'avais pas de rendez-vous avec mon assistant social.
J'ai aussi besoin de français pour connaître mes droits, pour comprendre les papiers officiels administratifs, pour comprendre les documents scolaires.
Pour remplir les documents administratifs, pour envoyer du mail car on ne peut plus rencontrer de personnes physiques, tout est dématérialisé.
Pour rendre un rendez-vous chez le médecin, pour réserver un hôtel, pour aider les scolarités de mes enfants.
Pour entrer dans la formation professionnelle qui m'appelait.
Pour travailler dans nos domaines de compétences, pour passer le permis de conduire.
Par exemple, en Allemagne, on peut passer son permis dans plusieurs langues différentes par ordinateur.
En France, on peut passer le permis de conduire avec un interprète, mais c'est un service payant. 172 euros, c'était accessible, surtout dans les grandes villes et pas dans les, toutes les langues.
Canal B, Radio Curieuse.
Nous sommes contre les cours en ligne proposés par l'OFI CAR.
Je suis contre les cours en ligne, car si je n'ai pas compris quelque chose, je ne peux pas demander d'explication au professeur.
Je suis contre, car à la maison, il y a beaucoup de distractions et on ne peut pas bien étudier.
Je suis contre, car c'était difficile. Je n'utilise pas bien les téléphones et l'ordinateur. Je ne suis pas habituée.
Si on apprend sur Internet, on n'a pas de motivation. Ça donne envie de dormir. En présence, on est obligé d'être concentré. Le professeur donne la motivation. Quand quelqu'un endort, il le réveille.
Si je fais le cours en ligne, il n'y a pas d'encouragement du professeur. Je me sens seule.
Je n'arrive pas à me concentrer quand il y a des cours en ligne. Pendant le COVID, je n'étais pas concentrée en ligne. Personne ne vérifie si on travaille.
Cela entraîne des difficultés d'intégration au présentiel, le groupe centre aide.
Beaucoup d'étrangers n'ont pas d'ordinateur et de connexion Internet. Lorsqu'on arrivait, on n'a pas beaucoup d'argent, surtout au début quand il n'y a pas de stabilité avec le logement, le travail. Prendre des cours en ligne à Kuala, c'est difficile.
C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les yeux se dégradent et ça fait mal au dos.
On parle avec le reste du groupe en français. Pour progresser, on a besoin de parler en français, de communiquer.
C'est plus facile d'apprendre avec un professeur parce qu'on ne peut pas parler avec un ordinateur.
On s'unit sur Internet. Les personnes qui communiquent en ligne ne sont pas actives, elles sont âgées, elles reçoivent des ordres.
Le cours de français, ce n'est pas seulement apprendre la langue, mais c'est aussi apprendre la vie en groupe et la discipline.
Aller dans un endroit en dehors de la maison pour faire une activité, cela nous donne beaucoup de confiance et autonomie.
Aller encore, c'est aussi au contraire de nouvelles personnes. S'échange des informations pratiques sur la vie en France, les magasins le moins cher, par exemple.
Bonjour, je m'appelle Anna, je suis géorgienne. Dans mon pays, l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans. Moi, je suis allée à l'école jusqu'à 18 ans. J'ai eu le bac. Quand je suis arrivée en France en 2018, j'ai attendu 3 ans avant de commencer mes premiers cours, car j'habitais à Becherel où il n'y avait pas de cours de français. Au début, j'ai commencé à parler français grâce à mon mari et une amie. Mais je communiquais principalement en anglais. En 2021, je suivis 300 heures de cours de français au CLPS, un centre de formation. Pour moi, ce n'était pas facile. Ma professeure était une personne très sympa et grâce à elle, j'ai beaucoup appris. Mais pendant le Covid, les cours étaient par Zoom, c'est-à-dire via Internet. C'était compliqué car je n'avais pas d'ordinateur, j'utilisais mon téléphone, mais je n'avais pas toujours de crédit ou de connexion. En 2023, j'ai commencé à travailler. J'ai progressé au travail, mais ce n'était pas facile au début car mes collègues utilisaient des mots différents. Avec le temps, je me suis habituée et j'ai pu le comprendre. Pendant cette période, je n'ai pas pris des cours car ce n'était pas facile de faire le trajet jusqu'à Rennes pour ça. En plus, je me levais à 3 heures du mat et mon travail était physique. J'étais épuisée. J'essaye vraiment d'apprendre le français, mais c'est assez difficile. Je ne comprends pas la grammaire. La langue géorgienne et la langue française sont très différentes. Et puis, j'ai des problèmes de santé, ce n'est pas toujours facile de s'en concentrer. J'ai vu en France depuis 7 ans. Je pense que je ne veux pas vivre ici toute ma vie. J'ai déjà la nationalité de mon pays et pour moi, c'est suffisant. Je suis une personne très patriote et j'aime mon pays. Je suis très reconnaissante envers le peuple français et les médecins. Car je suis venue pour un problème de santé, mais j'ai vu un jour retourner dans mon pays. Pour le moment, j'ai besoin d'un titre de séjour pour quelques années avec la possibilité de renouveler. Je veux avoir une vie normale et humaine en France. Je veux travailler, utiliser mes ressources ici et faire quelque chose de bien pour ce pays. Je pourrais peut-être changer d'avis plus tard, mais pour le moment, je pense que la nationalité française n'est pas nécessaire. J'ai seulement besoin d'un papier pour vivre une vie normale dans son pays, ce qui est très très difficile pour toutes les personnes sans papier. À propos de la loi immigration, je pense que c'est très difficile pour toutes les personnes qui ne sont jamais allées à l'école. Moi, par exemple, j'ai du mal à me concentrer à cause de mes problèmes de santé. Cela me semble impossible d'avoir le niveau B2 à l'écrit. Ma vie est très dure, très stressante en France, car j'ai eu un titre de séjour de 3 ans quand je suis arrivée. En 2023, j'étais en CDI. J'ai travaillé depuis un an et demi et j'ai reçu une OQTF, obligation de quitter le territoire français. J'ai dû arrêter de travailler. J'ai perdu l'argent et mon logement. Dans cette période difficile, je ne suis pas disponible pour me concentrer sur le français. J'ai réfléchi à comment je peux régler ma situation. Je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers comme moi qui n'ont pas de place dans la tête pour apprendre le français.
Canal B 94.0.
On va faire une première pause musicale sur Canal B dans l'émission de langue et communication. On va écouter Gibraltar d'Abdel Malik.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie. Une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra, comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain, il se fait derviche tourneur.
il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin, il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « Je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous à la même cadence !» Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme.
Abdal Malik et son titre Gibraltar sur Canal B. Retour avec les apprenants et apprenantes de langue et communication qui vous parlent de la nouvelle circulaire Retailleau pour une nouvelle certification linguistique.
Bonjour, je m'appelle Mouktuya et je viens de Mongolie. L'école est obligatoire de 6 à 18 ans dans mon pays. Je suis allée à l'école. Après mon bac, j'ai fait une formation de vendeuse. J'aimais l'école car j'ai pris beaucoup de connaissances et compétences. Je parle le mongol et j'ai appris le russe en deuxième langue au lycée. Maintenant, les élèves apprennent l'anglais comme deuxième langue. Je suis arrivée en France en 2019. Je n'ai commencé les cours qu'en 2023 car ma fille avait des soucis de santé. J'ai passé un an et demi à l'hôpital sud. En plus, il y avait le Covid. Tout est fermé et j'ai travaillé dans une usine de tomates. J'ai cherché pendant longtemps des cours de français car je n'avais pas de connexion Internet. C'est l'assistante sociale de l'hôpital qui m'a aidé. En 2023, j'ai étudié à langue et communication pour la première fois dans la télé sociale linguistique. Niveau A1+, A2+, B1 et aujourd'hui la télé du français en radio. J'ai un récépissé avec une autorisation provisoire de séjour. Je l'ai renouvelé tous les 6 mois. J'ai déjà renouvelé 5 fois. J'ai fait une demande de titre de séjour et j'attends maintenant la réponse. Je veux la nationalité française parce que j'habite en France. J'ai besoin de vivre dans une société sans stress, sans corruption, où chacun a le même droit sans discrimination. Je veux faire ma vie avec ma famille en France. Avec la nouvelle loi, j'ai l'impression que je n'aurai jamais la nationalité française car le niveau B2 demande beaucoup d'heures de cours. Je dois m'occuper de mes enfants dont une qui est malade et je dois travailler. Donc, je ne sais pas quand je trouverai le temps pour prendre des cours de français. Cela a ajouté un stress à ma situation.
Bonjour, je m'appelle Narges et je suis afghane. Quand je suis arrivée en France fin 2022, j'ai attendu 6 mois avant de commencer le cours de français parce que j'attendais mon rendez-vous avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. J'ai fait 100 heures de cours à l'Office et j'ai passé un test de niveau AA en mars 2023. Par la suite, j'ai commencé une formation au centre de formation SILPS, la prépa à venir Foulou, français langue étrangère, pendant 6 mois, de mars à décembre 2024. Ça ne s'est pas bien passé car j'ai été en arrêt maladie pendant 2 mois. À la fin de cette formation, j'ai quand même obtenu le niveau A2. Cette année, en 2025, grâce à formation Codico et grâce à France Travail, j'ai pu m'inscrire à un cours de français à langue et communication. J'espère pouvoir atteindre le niveau B2 car je voudrais être assistante dentaire. Et pour entrer en formation, il faut au moins le niveau B1. J'aimerais obtenir la nationalité française parce que je vis ici et je voulais faire ma vie. Je voudrais la situation française pour pouvoir voyager plus facilement. C'est intéressant d'avoir tous les droits d'une citoyenne française, comme le droit de vote et participer aux décisions. Je pense que ça peut m'aider pour le travail et la vie quotidienne ici. Et puis, c'est un peu aussi pour ma santé, pour l'intégrer dans la société française.
Bonjour, je m'appelle Amida. Je suis d'une nationalité syrienne, mais je suis née en Jordanie. Quand j'habitais en Jordanie, je suis allée à l'école à l'âge de 5 ans jusqu'à 7 ans. En Syrie, j'ai commencé à 8 ans jusqu'à 16 ans. Ensuite, j'ai obtenu le brevet du collège. J'ai arrêté d'apprendre parce que je me suis mariée. Quand je suis arrivée en France en 2018, j'ai attendu 5 ans avant de commencer le cours de français. Je faisais une heure par semaine avec le bénévole, car je n'ai eu mon titre de séjour qu'en 2023. L'année suivante, j'ai commencé le cours de français avec l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration, et je suivais le niveau A1 et A2. En 2024, j'ai fait la formation Prépare à venir Flou, français langue étrangère, au centre de formation CLBS. Et j'ai obtenu le niveau A2 au DCL, diplôme de compétence en langue. En 2025, j'ai préparé toute seule l'ODELF, diplôme d'études en langue française, niveau BA, et je l'ai obtenu en octobre de cette année. Actuellement, je cherche en formation professionnelle dans le métier d'ATSEM. J'ai demandé au CLBS et l'AFPA. Au CLBS, elle ne propose pas la formation et l'AFPA ne répond pas. Je continue avec langue communication et je fais atelier associé linguistique, le français en radio. Au début, c'était difficile de trouver des cours et après, c'était plus facile avec les papiers. Maintenant, je trouve mes formations moi-même. J'espère obtenir la nationalité française afin d'assurer mon avenir et celui de mes enfants. Nous sommes bien intégrés dans la société française et nous avons construit notre vie ici. Recommencer une nouvelle vie ailleurs, même dans notre pays d'origine, serait très difficile pour moi. La batterie et les lieux au long, c'est sans en sécurité et où on a un sentiment d'appartenance. Et pas seulement le pays où on est né. Mes enfants et moi souhaitons rester en France, car c'est ici que nous nous sentons chez nous. Cela ne signifie pas que nous renions notre pays d'origine. La Syrie restera toujours dans notre corps. Obtenir la nationalité française nous permettrait de construire un avenir stable et pouvoir visiter notre pays d'origine en toute sérénité.
Canal B, Radio Curieuse.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, donc moi je suis Élodie Véniel, je travaille à Langue et Communication. Je suis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années formatrice de français et avec une petite spécialité de m'adresser plutôt aux personnes qui n'ont pas été scolarisées dans leur pays. Voilà, aux personnes qui apprennent le français à l'oral, comme tous les étrangers qui arrivent et qui ne connaissent pas le français, mais aussi qui apprennent à lire et à écrire pour la première fois. Voilà.
Combien il y a chaque année d'étrangers non scolarisés qui arrivent en France?
Alors, c'est pas très facile de répondre à cette question parce que les seuls chiffres qu'on peut trouver, ce sont les chiffres des personnes qui sont évaluées à l'OFI quand elles signent le contrat d'intégration républicaine. Et donc, moi, j'étais regardée ces chiffres. Alors, on a des chiffres pour 2023, voilà, sur toutes les personnes qui ont signé ce contrat. Donc, ça veut dire des personnes qui ont obtenu un premier titre de séjour. Sur toutes ces personnes-là qui sont évaluées, vous savez, elles font le test, le premier test de français. Et donc, c'est en 2023, 18% de toutes les personnes qui sont évaluées. Voilà, ça, c'est au niveau de la France. Nous, ici à Rennes, on a la plateforme d'évaluation et d'orientation linguistique qui accueille par contre là toutes les personnes qui veulent des cours de français. En 2024, elles ont accueilli 757 personnes. Et sur ces 757 personnes, il y avait 12% de personnes qui n'étaient pas allées à l'école.
Il y a beaucoup de personnes francophones qui comprennent et parlent bien le français, mais qui ne savent pas les lire et l'écrire. Par exemple, je connais un francophone d'un pays d'Afrique qui demande de l'aide pour comprendre ses messages. Quelles difficultés font rencontrer ces personnes avec les nouvelles lois? Comment ces personnes sont encadrées dans leur apprentissage?
Alors, tout dépend en fait de leur statut et du coup, vous savez, si elles ont un statut juridique qui leur permet d'accéder à des formations qu'on appelle, c'est un peu du jargon, mais c'est les formations de droit commun, ça veut dire des formations par exemple au CLPS, des personnes qui n'ont pas accès à ces formations, qui peuvent aller seulement dans les associations, et ben elles vont effectivement dans les associations, mais à Rennes, on compte très peu, très peu d'associations qui sont spécialisées dans l'apprentissage du français à l'écrit pour les personnes qui parlent déjà. Il y a beaucoup d'associations pour apprendre le français à l'oral. Et puis voilà, quand on vient d'un pays non francophone, mais quand on vient d'un pays francophone qu'on parle déjà le français, eh ben on peut, voilà, on considère peut-être qu'on peut se débrouiller au quotidien dans la vie, mais en fait on peut pas se débrouiller avec ses papiers, comme vous dites, pour lire ses messages, pour lire son courrier. Enfin, c'est vraiment très compliqué. On a peut-être l'impression que comme les personnes parlent français, elles se débrouillent bien, mais en fait elles sont très embêtées dans le quotidien. Et même une fois qu'on a accédé à un statut, une fois qu'on arrive, qu'on a le droit peut-être à une formation au CLPS, ben en fait, il n'y a pas vraiment de formation qui s'adresse spécialement à ces profils-là, en tout cas à Rennes.
Il y a beaucoup d'étrangers qui ne sont pas allés à l'école quand ils arrivent en français. On leur demande d'apprendre le français pour s'intégrer. Est-ce que les formateurs et les professeurs sont capables de dispenser de cours pour ce public?
Alors oui, effectivement, c'est une question intéressante. En fait, pour être formateur, formatrice en français, langue étrangère, on demande un diplôme de niveau master, donc 5 ans d'études à l'université. Quand on regarde le catalogue, il y a à peu près 60 universités qui proposent des masters en France, des masters français langue étrangère. Mais sur les 60 universités, il y en a seulement 5 qui portent une mention en disant qu'on va s'intéresser un peu à apprendre ce qu'on appelle la didactique, donc enseigner le français à l'écrit pour les personnes non scolarisées. Donc ça fait pas beaucoup de masters, donc c'est effectivement difficile de se former de manière professionnelle à l'université. Par contre, et c'est la deuxième partie là de votre question, c'est intéressant aussi parce que ce manque de formation, il fait que les professionnels, ils ont un fort besoin de se retrouver. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, en fait, par des centres de ressources illettrisme et analphabétisme en France qui organisent des journées professionnelles où on se rencontre, où on peut échanger sur les pratiques. Et ça, c'est assez vivant. Il y a beaucoup de partage. Donc, en fait, on se forme. Et si on a envie de se former tout seul, en autonomie, on peut, il existe des choses. On peut se former. Mais c'est rarement dans la formation à l'université.
Quel type de méthode le formateur utilise pour enseigner le français à des personnes qui ne savent pas lire ou écrire ?
On essaie de combiner plusieurs méthodes. Sur les méthodes qui existent, nous ici, à Langue et Communication, on propose des ateliers d'alphabétisation pour les personnes qui n'ont pas été scolarisées. Donc, on utilise une méthode qui s'appelle méthode naturelle de lecture et d'écriture, où on utilise une méthode qui s'appelle Borel-Mezoni, où on fait un geste en même temps qu'on fait un son qui est difficile à écouter. Dans tous les cas, un principe qui est un peu obligatoire pour pouvoir apprendre à écrire, c'est d'apprendre à parler d'abord. En fait, on va d'abord faire beaucoup, beaucoup d'oral. Parce que, en fait, si on ne comprend pas ce qu'on lit ou ce qu'on écrit, si on ne l'a jamais entendu, c'est quasiment impossible. Donc, on va d'abord beaucoup travailler de l'oral et après, on va aller vers de l'écrit.
Est-ce que c'est possible d'avoir l'opéto à l'écrire et à l'oral pour une personne qui n'a jamais été scolarisée?
Alors, j'ai pas envie de dire que c'est impossible, mais en tout cas, c'est très, très difficile et moi, je ne connais personne. Ça fait, je vous disais au début, ça fait à peu près, fait un peu plus de 10 ans que je fais ce métier et je ne connais personne qui est arrivé non scolarisé et qui a atteint ce niveau B2. Alors, peut-être à l'oral, mais à l'écrit, vraiment, je connais personne.
Est-ce que vous connaissez des personnes en situation d'alphabétisation qui ont le niveau A2 oral à écrire, BA oral à écrire? Combien de temps cela peut prendre?
Alors, quelqu'un qui a atteint le niveau A2, si, je connais une personne qui a atteint le niveau A2 et je pense qu'il y en a plus. Je pense que c'est un niveau qu'on peut atteindre. Mais au bout de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, là, la personne que je connais, elle avait commencé des cours de français en 2016, elle a fait beaucoup d'heures de formation et le niveau A2, elle l'avait atteint en 2022. Donc, vous voyez, ça fait 6 ans. Idéalement, il faudrait que les personnes puissent apprendre sur peut-être 5 ans pour avoir le temps aussi d'apprendre, de bien intégrer tout ce qu'elles apprennent, parce que c'est vraiment très dur pour le cerveau. On est obligé de changer des choses dans le cerveau pour apprendre à lire et à écrire. Ça fait changer des choses qui nous se sont changées quand on était petit, quand on était à l'école. Mais voilà, à l'âge adulte, c'est plus douloureux. Ouais.
Beaucoup de Françaises qui sont allées à l'école pendant 15 ans ne savent pas lire ni écrire aussi.
Oui, alors là, on va parler de personnes qui sont en situation d'illettrisme. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'on est allé à l'école, on a plus ou moins appris, mais vous voyez, c'est un petit peu comme si on passait le permis de conduire et qu'on pensait tout le temps à quelle vitesse je dois passer. Oh là là, en fait, au bout d'un moment, quand on conduit, ça devient automatique. La lecture, c'est pareil. Une fois qu'on a appris à bien lire, on ne pense plus à comment, à qu'est-ce que je dois faire pour lire. Mais les personnes en situation d'illettrisme, c'est un peu comme si elles se disaient « je dois passer la première ». Ah, maintenant, la seconde, je freine. Et tout ça, en fait, ça veut dire qu'elles n'ont pas, c'est pas devenu automatique pour elles. Donc, elles vont pouvoir peut-être un peu lire, mais ça va être difficile de comprendre. Donc ça, c'est une autre agence nationale qui s'occupe de ça. C'est l'ANLCI, l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme. La question, c'était pourquoi il y a plusieurs, souvent, c'est des personnes qui ont eu des soucis peut-être à la maison ou ça s'est pas bien passé à l'école, peut-être avec un enseignant. Il y a plein de raisons qui sont un peu parfois individuelles et puis des fois aussi, c'est voilà, le système scolaire qui ne leur a peut-être pas très bien convenu et qui ne s'est pas adapté peut-être à leur situation. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se retrouver en situation d'illettrisme.
Quelle est la différence dans l'apprentissage de français entre un étranger scolarisé et non scolarisé?
Ce qu'on va faire, nous, dans les ateliers d'alphabétisation, on fait des choses. Alors peut-être que si quelqu'un vient dans notre classe, il va se demander « mais qu'est-ce qu'elles font ?» Parce que on va faire des activités où on ne va pas lire ou écrire, mais on va manipuler. Par exemple, on va faire le jeu du tamgramme. Je ne sais pas si vous connaissez. Par exemple, je pourrais vous montrer. On va faire des jeux du tamgramme qui vont justement travailler à ce que le cerveau puisse ensuite lire et écrire. En fait, toutes ces activités qu'on a fait peut-être en maternelle, vous savez, de mettre un rond dans un rond, un carré dans un carré. En fait, toutes ces activités-là, nous, on s'en rend plus compte aujourd'hui, mais tout ça, ça prépare à pouvoir reconnaître des lettres, à pouvoir lire, à écrire. Donc, en fait, on va faire beaucoup d'activités comme ça qui vont préparer la lecture et l'écriture. Ce qu'on va pas faire avec des personnes qui savent déjà lire et écrire dans leur langue, on va pas faire ça, mais on passe beaucoup de temps au début. Ouais, à faire des activités comme ça qui vont préparer la lecture et l'écriture.
Depuis les nouvelles lois, l'immigration, est-ce que l'État peut avoir plus de courses de français pour les personnes en situation d'alphabétisation?
Eh bien, non. En fait, avant cette nouvelle loi, il y avait 600 heures de prévues. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit 1500 heures pour un niveau A1. Là, les personnes en situation d'alphabétisation vont continuer à avoir 600 heures. C'est pas assez pour un niveau A1. Et c'est pas assez non plus pour le niveau A2, qui est maintenant l'objectif. C'est ça qui change. C'est que maintenant, on leur demande le même nombre d'heures, mais un niveau A2, qui est le niveau au-dessus. Et ça, pour le coup, c'est impossible.
Concrètement, est-ce que cela va devenir difficile pour les étrangères non scolarisées d'avoir une carte de séjour pluriannuelle? Que pensez-vous? Quelles sont les conséquences sur leur vie en France?
Tout dépend encore une fois de leur statut. Si c'est des personnes qui ont un statut de réfugié, on ne va pas leur demander, de toute façon, elles sont pas concernées par la carte pluriannuelle. Mais pour toutes les autres personnes à qui l'on demande ce niveau A2 pour renouveler et pour renouveler leur droit au séjour, malheureusement, je crains que ces personnes ne deviennent sans papier. Voilà, on est en train de fabriquer là des sans papiers, alors que c'est vraiment des personnes qui ont qui ont envie de participer à la vie en France. Et donc, c'est vraiment dommage de ne pas prendre en compte cette spécificité des publics.
Merci.
Merci. Ouais, merci pour vos questions intéressantes.
Merci. Merci beaucoup.
Nouvelle pause musicale sur Canal B dans l'émission de Langue et Communication. On va écouter le titre « Irruption » de Gaël Faye.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoules ou bien nègres. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays, l'affiche et couleur sang. Et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux armes miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc mon pan Peter Pan va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui fait une choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Irruption de Gaël Faye sur Canal B dans l'émission de langue et communication. On retrouve tout de suite les apprenants et apprenantes.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Enora Caillard, j'ai 29 ans et je suis professeure de FLE, donc français langue étrangère, depuis 5 ans.
Bonjour, moi c'est Kelly Malgrin, j'ai 35 ans et je suis aussi professeure de FLE, de français langue étrangère, depuis presque 10 ans. Et on a travaillé au CLPS. Le CLPS, c'est le centre de formation où les migrants venaient faire les classes de français. L'OFI, c'est le bureau d'immigration, Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est là que les migrants vont pour un premier rendez-vous pour faire un test de français. Et après, ils vont au centre de formation pour faire les classes de français.
Nous avons travaillé entre 3 et 4 ans au CLPS pour l'OFI.
Quel était votre travail précis là-bas ?
Alors nous, on s'occupait de faire les classes de français pour les personnes qui avaient entre 100 et 600 heures de français. On leur donnait des classes de français pour qu'ils parlent français, mais aussi pour qu'ils soient autonomes dans leur vie en France au quotidien. Il y avait les classes, mais il y avait aussi beaucoup de travail administratif. Il y avait aussi la préparation des classes. Et puis, on suivait chaque étudiant du début à la fin, on l'accueillait, on l'aidait, on lui donnait des classes, on le conseillait, on faisait son évaluation, on faisait son bilan, et après on trouvait une formation ou quelque chose qui corresponde à son projet.
Et une autre partie de notre travail, pour des professeurs comme Kelly ou moi, c'était d'aller à l'OFI, donc pour faire passer les tests de français, toutes les personnes migrantes convoquées au bureau de l'intégration et de l'immigration. Donc nous devions faire passer les tests à toutes les personnes venant de Bretagne et déterminer s'ils avaient besoin de faire des cours de français ou non. Toutes les personnes qui n'avaient pas le niveau A1, donc le plus petit niveau en français, devaient faire des cours de français obligatoires. Et donc c'était à nous de déterminer s'ils avaient besoin de 100, 200, 400 ou 600 heures pour atteindre le niveau A1.
Pourquoi avez-vous arrêté ?
Personnellement, j'ai arrêté parce que les conditions de travail n'étaient pas acceptables à mon avis, que ce soit en termes de conditions, de salaire, de surcharge de travail. J'étais très fatiguée et je ne trouvais plus de sens à mon travail.
Et moi aussi, j'ai arrêté pour deux raisons. La première, comme Kelly, c'est que je n'étais pas satisfaite de mes conditions de travail. Et la deuxième, c'est que je ne suis pas d'accord avec les nouvelles règles de l'OFI. Et donc, je ne souhaitais pas continuer à travailler avec eux. Et en juillet 2025, on a appris qu'il y aurait très peu de cours de français, donc très peu de postes, très peu d'emplois pour les professeurs de FLE. Et beaucoup de professeurs ont perdu leur travail.
Que fais-tu aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis bénévole dans une association de Rennes qui s'appelle DIDA pour donner des cours de français, toujours avec un public migrant.
Et moi, eh bien, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle FLE Enchanté et je continue à donner des cours de français. Et je suis aussi engagée dans les mobilisations pour l'accès au français pour tous.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont organisées les cours de français à l'OFI depuis juillet ?
Donc, depuis le 1er juillet 2025, les cours de français ne sont plus obligatoires et seulement quelques personnes ont accès aux cours avec une ou un formateur. Donc, ce sont seulement les personnes qui avaient avant besoin de 600 heures. Donc, ils ne savent pas lire, pas écrire et pas parler en français, peuvent avoir accès à des cours avec un ou une formatrice.
Et pour les autres personnes, donc les personnes à qui on va prescrire ou on va donner 100, 200 et 400 heures, eh bien désormais, ils passent par une application sur le téléphone, donc il n'y a plus de professeur pour eux.
Pourquoi c'est un problème ?
Pour beaucoup de raisons. Bien déjà, comme on l'a évoqué, il y a beaucoup de professeurs qui ont perdu leur travail suite à cette décision. Mais surtout, pour les personnes qui souhaitent apprendre le français, ça implique beaucoup de difficultés. Déjà, avoir un professeur, ça permet de nous expliquer les choses, de nous aider et de nous corriger quand on n'a pas compris quelque chose. Là, avec une application, c'est maintenant l'intelligence artificielle qui corrige les exercices. Donc, ce n'est pas très adapté, on va dire, à la situation. Et puis, une application, eh bien, ça n'aide pas à être autonome. On va surtout avoir de la grammaire, mais on ne va pas apprendre à être autonome. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas utiliser les applications, qui ne savent pas télécharger une application, comment utiliser une application. Donc, pour toutes ces personnes-là, c'est une difficulté. Il y a également, apprendre sur un tout petit écran, ce n'est pas du tout adapté. Il y a des personnes âgées qui ont ces cours de français. Il y a des personnes qui n'ont pas Internet. Il y a des personnes qui n'ont pas un téléphone récent pour pouvoir mettre ces applications. Et il y a même des personnes qui n'ont pas de logement, qui dorment dehors et qui, bien sûr, n'ont pas forcément accès à tout ça. Il y a aussi le fait qu'une application, eh bien, ça n'apprend pas à communiquer, à parler, comme dans la vraie vie, comme tous les jours. Ça n'apprend pas non plus à comprendre un vrai français qui parle dans la rue. Et puis, concernant l'écrit, comme j'ai dit, c'est beaucoup de grammaire, c'est beaucoup de vocabulaire. Ça n'a rien à voir avec l'écrit qu'on pratique tous les jours en France, les formulaires, les messages, etc. Donc, sans avoir un retour d'un professeur, je trouve que ça n'a pas trop de sens.
Autre chose, c'est que les cours de français avec un ou une professeur, c'était un moyen de rencontrer d'autres personnes, de ne pas être seul, de ne pas être isolé, de sortir de chez soi, de pouvoir poser des questions à votre formateur ou votre formatrice, et aussi de savoir si on s'améliore. Quelqu'un qui vous dit, est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on continue comme ça ? Je pense que c'est très difficile d'avoir la motivation d'apprendre une langue tout seul, chez soi, sur son téléphone. Et puis, un autre problème, c'est que les gens vont vers les associations. Mais il y a de plus en plus de personnes qui vont vers les associations et il n'y a pas assez de places ou de bénévoles pour aider tout le monde.
Pourquoi Bruno Retailleau a fait une loi sur les niveaux de français des étrangers et des étrangères ?
Alors, il y a le fait que les cours de français sont dématérialisés pour presque tout le monde. Mais ça, c'est une décision de l'OFI. Ce n'est pas une décision de Bruno Retailleau. Il est plus que probable pour l'OFI que ce soit une question de budget. C'est moins cher de payer une application une fois que de payer tous les formateurs et les formatrices qui donnent les cours de français. Bruno Retailleau, lui, il a décidé d'augmenter les niveaux pour les titres de séjour des migrants.
Par exemple, sur le changement de niveau, avant, par exemple, pour demander un titre de séjour pour rester 4 ans en France, on demandait le niveau A1 et maintenant on demande le niveau A2. Pour rester 10 ans en France, pour avoir un titre de séjour de 10 ans, Avant, on demandait le niveau A2. Maintenant, on demande le niveau B1. Et pour demander la nationalité française, avant, on demandait le niveau B1. Et désormais, c'est le niveau B2. Je pense qu'on peut comparer ça à un niveau lycée, voire début université, puisqu'on va être capable d'écrire, par exemple, un commentaire de texte ou ce genre de choses.
Donc, c'est niveau terminal, voire universitaire, quoi. Début d'université.
Ça peut, oui.
Que pensez-vous de cette nouvelle loi ?
Comme on l'a évoqué, en fait, c'est complètement contradictoire, puisque d'un côté, on demande un niveau plus élevé, et de l'autre, on enlève du budget de l'argent pour les cours de français. Donc, c'est vraiment très contradictoire. Et puis, alors Bruno Retailleau, vous avez demandé pourquoi, et je n'ai pas vraiment répondu sur le pourquoi. Pourquoi il a fait cette loi ? Eh bien, dans une conférence de presse, il a évoqué qu'être français, ça doit se mériter. Et on doit être très, très exigeant. Et il a dit également que ça avait pour but d'améliorer l'intégration. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas pour cette raison, mais plutôt pour rendre difficile l'installation en France et même rendre les personnes expulsables. Donc on voit bien que c'est complètement contradictoire. Et par exemple, le fait d'améliorer l'intégration, ça n'a aucun sens puisqu'il y a des migrants qui sont déjà parfaitement intégrés. Ils ont un travail, ils ont un CDI, ils parlent très bien dans le quotidien. Pourquoi exiger un test B2 pour la nationalité ? Ça n'a pas vraiment de sens. Surtout qu'en plus, les personnes souvent échouent au test à cause du stress et aussi parce qu'ils ne sont pas préparés à ce type de test. Hein. C'est dans notre culture à nous de faire des examens, mais ce n'est pas dans la culture de tout le monde. Et si on n'est pas préparé, eh bien on peut échouer parce qu'on ne sait pas ce qui est attendu pour cet examen. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont jamais été à l'école avant. Mais pourtant, ils parlent très bien, ils peuvent écrire un petit peu, mais ils ne vont pas réussir ce test. Et pourtant, ça n'empêche pas leur intégration. Il y a aussi des personnes qui sont en CDI et qui n'ont pas l'opportunité ou le temps de faire des cours de langue supplémentaires. Et puis, quand on voit le niveau à l'écrit de même des personnes françaises, c'est un petit peu exagéré d'exiger des migrants qu'ils aient un niveau B2 à l'écrit quand on voit que certains Français n'ont pas ce niveau à l'écrit. Puis le B2 aussi, c'est un niveau qui est très élevé, comme on a dit tout à l'heure, hein, voilà, niveau terminal. D'ailleurs, il y a eu un reportage en février 2025. 10 personnes françaises ont passé un test B2 pour voir ce que c'était que ce test. 9 de ces 10 personnes avaient un diplôme, donc ils ont fait des études à l'université. Parmi ces personnes, il y a même une personne qui avait un master et qui a trouvé le test très difficile. Et il y a 2 personnes sur 10 qui ont échoué au test. Ça veut dire que ces personnes françaises ont échoué au test qui est censé donner la nationalité française. Donc ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est totalement injuste. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Pour avoir un titre de séjour, il faut payer un test. Pour réussir ce test, il faut payer des cours. Pour payer des cours, il faut de l'argent. Donc il faut un travail. Et pour avoir un travail, il faut un titre de séjour.
Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Ce que je voudrais ajouter, c'est que pour les personnes qui viennent de l'Union européenne, le droit de séjour en France, il n'y a pas de condition de langue pour eux. Donc, il y aurait un problème d'intégration seulement pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Donc ça questionne, parce qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment discriminatoire. Et dans un article très intéressant d'un professeur de l'Université de Rennes, il explique et il rappelle que la langue, comme condition pour l'intégration, ce n'est pas évident, comme pense Bruno Retailleau. Ni dans le temps, ni pour tout le monde, donc pas pour tout le monde. Personne de l'Union européenne, pas besoin. Personne venant d'autres continents, là, il y a besoin. Et il y a des études, donc des personnes qui ont fait des recherches et qui montrent que l'apprentissage du français, c'est pas forcément une garantie de l'intégration en France, parce qu'il y a plein d'autres choses pour l'intégration, comme le travail, le logement, le lien social, pas forcément l'apprentissage de la langue.
Qu'est-ce qui vous a pensé à rejoindre Collectif le français pour tous et tous ?
Donc face aux nouvelles lois, moi d'abord je me suis sentie un peu impuissante. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment on peut changer les choses ? En étant seule, c'est un peu compliqué. Et grâce à mon association où je suis bénévole maintenant, j'ai entendu parler d'une journée de mobilisation le 8 septembre 2025 à Rennes. Donc, grâce au centre de formation langue et communication qui a lancé cette journée. Nous nous sommes retrouvés et on a décidé du coup de se mobiliser.
Oui, c'est ça, exactement. Pour moi, c'était vraiment un sentiment d'injustice. Et j'ai trouvé ça super, en fait, de pouvoir se mobiliser localement à Rennes et de participer à une lutte et d'espérer de changer les choses un petit peu et d'espérer de pouvoir aider les personnes concernées.
C'est quoi précisément ce collectif ?
Donc le collectif français pour toutes et tous, c'est un collectif qui est officiel depuis 2016 avec plusieurs associations assez importantes qui se sont regroupées. Donc par exemple, il y a les centres sociaux de France, la CIMAD, le RADIA, le Secours catholique et c'est à l'échelle nationale. Le collectif, il souhaite promouvoir l'accès à l'apprentissage du français pour tout adulte qui le veut, sans condition. Donc le collectif a plusieurs revendications qui sont un droit inconditionnel à l'apprentissage du français, donc sans condition. Le retrait de la formation en 100% dématérialisé, donc en 100% sur l'application. Que les formations prennent en compte la diversité des apprenants. Okay, vous êtes tous différents, nous sommes tous différents et nous avons tous plusieurs contraintes ou manières d'apprendre. Une autre revendication, c'est que les titres de séjour et la nationalité ne soient pas conditionnés à un niveau de français. Et enfin, que les financements, que l'argent pour les associations continue pour assurer une diversité d'espaces et de professeurs et de formateurs pour continuer à apprendre le français.
Du coup, en termes d'action, en ce moment, ils sont en train de réaliser une action en justice, c'est-à-dire qu'ils poursuivent l'État français par rapport à ces nouvelles lois, notamment la dématérialisation des cours et le niveau de français qui est exigé. Il s'occupe également d'informer un petit peu tous les acteurs qui sont concernés par ces problématiques, que ce soit des centres de formation, des acteurs du domaine social, et puis ils organisent aussi des journées de mobilisation, comme on a dit tout à l'heure, le 8 septembre, ça peut faire partie de leurs actions également.
Comment fait-on pour rejoindre le collectif ?
On peut d'abord aider le collectif national en signant le manifeste sur leur site internet, donc pour les aider dans l'action en justice. Et si on est concerné par les difficultés, si vous êtes une personne qui souhaite apprendre mais qui fait face à des difficultés, vous pouvez aussi les contacter sur internet pour donner votre témoignage, pour dire, expliquer quels sont vos problèmes.
Merci à vous pour donner bonne information.
Merci à vous.
Merci à vous, oui.
Super.
Le premier volet de cette émission de Langue et Communication, dédiée à la nouvelle loi Retailleau sur la certification linguistique, est terminé. Rendez-vous samedi prochain, le 17 janvier à 10h, sur cette même antenne, pour écouter le second volet autour des histoires de Fatma, Eman, Moujibour et Narek, et l'interview d'une bénévole du MRAP. D'ici là, portez-vous bien. Salut.